À quoi s'attendre demain, samedi, dans les rues de France? Comment les gilets jaunes vont-ils réagir aux annonces d'Emmanuel Macron? Plus largement, comment les fonctionnaires ont-ils perçu la suppression de la suppression de 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat? On y revient dans un instant. On détaillera également quelques réactions politiques après les annonces d'Emmanuel Macron hier lors de sa conférence de presse, notamment en matière écologique. Nous irons également à Londres où un nouveau scandale secoue le gouvernement de Theresa May. Une chasse aux traîtres est ouverte, nous dira Antoine Gignot. En Algérie, où les manifestations de protestation ne faiblissent pas, ou encore en Afrique du Sud, qui fête demain 25 ans de démocratie. Et puis en France, comment faire face à l'afflux de faux médicaments? À suivre à la fin de ce journal, l'enquête de David Ravier. Avant d'en venir à l'actualité politique et sociale de ce vendredi, cette information relative à l'un des plus importants mouvements de solidarité français d'après-guerre, le Secours Populaire, qui vient de perdre sa figure tutélaire, son fondateur, Julien Loprêtre, qui était aux manettes depuis la création en 1955 du Secours Populaire. Bonsoir Pierre-François Plessis.
Bonsoir.
Au long de plus de 60 années d'action au service des plus démunis, Julien Loprêtre, décédé aujourd'hui à 93 ans, a marqué par son engagement et sa détermination.
On a perdu un grand combattant de la pauvreté, a regretté Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre. Miroitier de profession, Julien Loprêtre devient militant communiste pendant l'occupation, un homme de résistance arrêté en 1943 et incarcéré à la prison de la Santé où il fait une rencontre fondatrice. Il l'a raconté en 2001 à Luc Ospide.
Ma première rencontre avec un autre prisonnier, ça a été celui que j'ai appris à, lorsque j'ai vu la fiche rouge, que c'était Manoukian, parce que évidemment je ne connaissais pas son nom, et il était tuméfié. C'était un homme qui avait une stature imposante et surtout un regard très très fort.
C'est un moment fondateur de votre militance après, ensuite.
Oh, ça a beaucoup contribué, parce que Manoukian m'a dit toi tu vas t'en sortir, moi je m'en sortirai pas, je suis foutu.
Il s'engage alors corps et âme contre la pauvreté, président du Secours Populaire pendant plus de 60 ans, et une conviction profonde, selon Malika Tapti, secrétaire nationale de l'association, la volonté d'impliquer les enfants.
Il croyait beaucoup à l'action des enfants, à la place qu'on souhaite donner aux enfants, à la parole que doivent prendre les enfants, et au fait qu'ils doivent agir pour être les citoyens de demain. Et ces 10 dernières années, il a fortement insisté pour dire combien c'était important de donner la place et permettre aux enfants d'agir pour développer la solidarité en France et dans le monde.
Il était aussi à l'origine d'autres programmes destinés aux enfants comme les Pères Noël Verts ou encore les chasses aux œufs du Secours Populaire. Julien Loprêtre, c'était 93 ans de combat et une devise. Tant qu'on veut de moi, je reste.
Merci Pierre-François Plessis. Venons-en maintenant aux réactions qui continuent à arriver au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron en conférence de presse hier à l'Élysée. On parlera dans un instant d'écologie. Nous verrons également où en sont les gilets jaunes. Mais revenons d'abord sur une des annonces principales du chef de l'État à propos de la réduction du nombre de fonctionnaires. Il s'est dit prêt à revenir sur sa promesse de supprimer 120 000 postes d'ici la fin de son quinquennat si l'objectif n'est pas atteignable. Or, il est atteignable, lui a répondu en quelque sorte Gérald Darmanin ce matin, le ministre des Comptes publics, jetant un peu plus le trouble chez les fonctionnaires qui, il faut bien le dire, n'étaient déjà franchement pas tous convaincus par les annonces présidentielles. Écoutez ce qu'en pense le secrétaire général de la Fédération générale des fonctionnaires de Force ouvrière, Christian Grolier.
La vraie question, c'est pas où je mets Pierre, Paul ou Jacques, c'est quelles sont les missions de service public et comment on organise ces missions. Si c'est pour mettre des fonctionnaires de l'administration centrale vers la province, pourquoi pas? Mais la question, c'est pourquoi faire? Pour quel type de mission? Ce gouvernement, comme ses prédécesseurs, ont toujours une vision budgétaire de la fonction publique avec le dogme de réduction de la dépense publique. Et on n'a jamais eu le débat de fond. Quel service public demain? Quelle mission? Comment l'organise et à quel niveau? On nous dit, je vais mettre des postes de centrale en province. Ok, mais pour faire quoi? Pour quelle mission? Et comment seront remplacés les postes de centrale et les missions que ces postes-là occupés. Je rappelle quand même que c'est ce même gouvernement qui, cette année encore, ferme des dizaines de trésoreries, ferme des bureaux de poste, ferme des écoles, etc. Donc là, il annonce qu'il va arrêter les fermetures d'écoles, c'est une bonne nouvelle, qu'il veut mettre des maisons de service au public. Là aussi, on verra pour exercer quelle mission, avec quel type de personnel, quels seront les statuts des personnels. Plus de présence de services publics de proximité, c'est bien. Après, c'est pour faire quoi et comment. Et là, encore une fois, il ne précise rien. Ce qu'on va attendre avec impatience, si c'est le Premier ministre, confirme que effectivement, l'engagement de suppression des 120 000 postes est remis en cause. Ça, ce serait la première bonne nouvelle. Mais à ce stade, vous savez, on a plutôt le sentiment que rien ne change en termes de politique du gouvernement. Il va falloir démontrer que ce qu'a dit le président, ce n'était pas un nuage de fumée.
Christian Grolier répondait aux questions de Manon Claverie. Du point de vue des écologistes maintenant, comment ont été perçues les annonces d'Emmanuel Macron, notamment celle de créer un conseil de défense écologique qu'il présidera lui-même? Pour Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts, c'est une supercherie et cela s'apparente à un véritable comité Théodule. Yannick Jadot était l'invité tout à l'heure de France Bleu Loire-Océan.
Ça, c'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles. Vous vous rendez compte qu'on est en France, on a des institutions. On a tout ce qu'il faut pour mettre en place des politiques écolo. On a ce qu'on appelle dans notre démocratie un conseil des ministres, où siège le président de la République, où siègent tous les ministres, dont le numéro 3 du gouvernement, le ministre de l'écologie, ministre d'État, qui a une compétence transversale sur tous les autres ministères. Et là, pour ne pas agir une nouvelle fois, pour reporter l'action, on invente encore une autre institution, un autre comité, d'autres processus de discussion, de concertation, tout ça pour ne pas agir.
Yannick Jadot tout à l'heure sur l'antenne de nos confrères de France Bleu Loire-Océan à Nantes. Alors concernant les gilets jaunes, maintenant c'était prévisible après les annonces présidentielles, les rassemblements vont se poursuivre demain. La principale manifestation à l'occasion de l'acte 24 ce samedi devrait avoir lieu à Strasbourg, un appel international y est d'ailleurs lancé, tout comme existe au niveau national un appel à une convergence des luttes inédites. On verra demain si elle a lieu, car de nombreuses figures des gilets jaunes commencent à trouver le costume de porte-voix un peu lourd, certains, Caroline Félix, ont bien du mal à vivre leur notoriété.
Éric Drouet, chauffeur routier gilet jaune, se met en retrait. Il l'a annoncé sur sa page Facebook, suivi par 70 000 personnes. Sa notoriété lui a joué des tours.
Mon quotidien, c'est que des vidéos sur moi, des lettres, des menaces, H24 depuis bientôt presque 5 mois.
Des menaces qui viendraient de tous bords.
C'est beaucoup chez les gilets jaunes et beaucoup chez des pseudo-gilets jaunes. Même beaucoup de foulards rouges. Après, t'as aussi tout ce qui est journaliste. Tu te fais pourrir à la télé alors que t'as rien fait.
Ou... Il retourne au statut de simple gilet jaune incognito. Le breton Maxime Nicole, un autre porteur. Porte-voix des gilets jaunes, est exposé au même problème lié à la notoriété.
Je reçois aussi des menaces de mort, des menaces d'atteinte physique, etc.
Mais les critiques ne l'empêchent pas de dormir, loin de là.
Ça me passe au-dessus, en fait. Je me dis qu'il y a toujours des gens qui grognent, mais il y a une particularité, c'est que c'est des gens qui grognent sur les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui sont pas contents sur les réseaux sociaux, mais en manifestation, il suffit de discuter 20 minutes avec eux pour que, en fait, finalement, il n'y ait pas de soucis.
Quant aux menaces physiques, Maxime Nicole se dit protégé.
Mon numéro de téléphone n'a pas encore fuité et mon adresse personnelle est introuvable. Puisque je suis hébergé à titre gratuit, donc pour que les gens puissent trouver mon adresse personnelle, ça va être très compliqué.
Farouk Largo, porte-parole des Gilets jaunes du Val d'Oise, lui s'est méfié dès le départ de la célébrité.
À double tranchant, il faut faire très très attention.
Alors, la stratégie de cet animateur de Sarcelles, éviter les télévisions nationales.
J'ai choisi plus les médias de radio, l'écrit et surtout l'international, pour éviter ce genre de phénomène, que ce soit phénomène groupie ou phénomène gourou. De ne pas trop être visible sans rester invisible. C'est ce qui m'a préservé.
Farouk Largo l'affirme, il ne publie quasiment plus rien sur les réseaux sociaux.
Caroline Félix. Les fonderies du Poitou et Saint-Jean Industrialu dans la Vienne pourront être reprises par le groupe britannique Liberty House. Ainsi en a décidé aujourd'hui le tribunal de commerce de Lyon, au grand soulagement des salariés des deux entreprises. Plus de 600 des 800 emplois sur place devraient pouvoir être sauvés. À Londres, le gouvernement de nouveau dans la tempête et cette fois le Brexit n'y est pour rien. C'est sur fond de haute technologie et en lien avec des décisions stratégiques que le cabinet de Theresa May se déchire. Depuis mardi soir et la publication dans le quotidien The Telegraph de l'information selon laquelle l'entreprise chinoise Huawei allait être autorisée à participer au déploiement de la 5G au Royaume-Uni, la question taraude la classe politique. Qui a fait fuiter cette information prise lors d'un conseil de sécurité nationale et qui était donc censé rester strictement confidentiel? À Londres, Antoine Gignot.
Leur portrait s'étale dans la presse comme les cartes d'un jeu de Cluedo. 5 ministres, 5 candidats potentiels à la succession de Theresa May, 5 personnalités politiques de premier plan qui clament leur innocence et parmi eux probablement un menteur. Car ils n'étaient pas nombreux autour de la table lorsque la décision a été prise d'autoriser Huawei, le constructeur chinois, a participé au développement de la 5G au Royaume-Uni. Il y avait quelques hauts fonctionnaires, les responsables des services de sécurité et les politiques. Pour savoir qui a trahi la confidentialité des échanges, une enquête interne menée par le responsable de la fonction publique a été ouverte, mais tous les regards se tournent vers les ministres et leurs proches collaborateurs. Aux affaires étrangères, Jeremy Hunt parle d'affaires épouvantables, même discours à la Défense, au ministère de l'Intérieur, aux Finances, discours peu convaincant. Pourtant, les conservateurs anti-Brexit qui s'opposent au gouvernement profitent de l'occasion pour réclamer le départ du fautif et Michael Fallon, ancien ministre de la Défense, demande l'ouverture d'une enquête de police.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Manifestation cet après-midi à Bruxelles à l'appel de la Confédération européenne des syndicats. Il y a quelques semaines des élections européennes, il s'agissait d'en appeler à une Europe plus sociale. Ils étaient 8000 manifestants selon les organisateurs, 4600 selon la police. Reportage signé Pierre Benazé.
Protégeons les salaires, pas les frontières, protégeons nos emplois et nos retraites, scandaient les syndicalistes européens dans les rues de Bruxelles ce vendredi. Des Allemands, des Luxembourgeois, des Grecs, des Espagnols et beaucoup de Français ont crié leur colère face à une Europe qui se préoccupe plus, selon eux, des intérêts des entreprises que de ceux des travailleurs. Entre le Parlement européen et la Commission, ils ont tenté de faire entendre leur voix afin, selon plusieurs d'entre eux, que les préoccupations sociales reviennent au sommet de l'ordre du jour. Face aux campagnes politiques qui font la part belle à l'immigration ou aux sujets qui favorisent le vote populiste. Des préoccupations sociales et donc aussi environnementales, selon Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
Au niveau européen, ce qu'il faut, c'est qu'on s'inscrive définitivement dans un nouvel espace où on aura un nouveau modèle productif lié à la transition écologique. C'est un investissement fort, c'est un peu ce qui a manqué hier aussi au président de la République. Sans un engagement financier très fort dans la transition écologique, on n'y arrivera pas. Et en Europe, et on est là pour ça aujourd'hui, s'il n'y a pas une Europe sociale qui prenne en compte les travailleurs, on n'y arrivera pas. Donc il y a un gros enjeu avec les élections européennes. Aujourd'hui, on avait besoin de démontrer la force du syndicalisme européen. On agit par plein de moyens, mais il faut aussi agir de temps en temps par la manifestation.
Et les syndicalistes européens promettent de maintenir la mobilisation pour que lors de la campagne, les revendications sociales européennes ne soient pas reléguées derrière des micro-débats sur des sujets étroitement nationaux.
En Espagne, maintenant, d'autres élections sont organisées d'ici aux européennes de la fin mai. Ce sont des élections législatives anticipées. Elles auront lieu dimanche. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de campagne. Et face à la montée du parti d'extrême droite Vox et à sa probable arrivée au Parlement espagnol, la gauche tente de se mobiliser. Plus d'une centaine d'intellectuels de gauche ont publié ces derniers jours un manifeste intitulé « Le 28 avril, c'est toi qui décides ». À Madrid, la correspondance de Marie-Hélène Ballestero.
C'est devant une salle comble au Cercle des Beaux-Arts à Madrid que les intellectuels espagnols de gauche se sont rassemblés à la mi-journée pour présenter le manifeste intitulé « Le 28 avril, c'est toi qui décides ». Un acte rempli d'émotion et d'art, présenté par deux écrivains espagnols, Almudena Grandes et Benjamin Prado. C'est lui qui a donné la bienvenue à tous les participants.
Bienvenue à toutes et à tous à cet acte du monde de la culture et de l'art que nous avons organisé pour mettre en garde contre l'abstention et afin de vous demander de voter pour l'un des partis de gauche, quel qu'il soit. Car cette fois, c'est un taureau sauvage, très dangereux qui arrive. C'est le taureau de l'extrême droite.
Ce n'est pas la première fois que les intellectuels de gauche se mobilisent en Espagne à la veille des élections législatives. Mais cette fois, l'heure est grave. Ils ont peur de la montée de l'extrême droite, un vieux fantôme qu'ils pensaient ne plus jamais revoir en Espagne. À travers cet acte et ce manifeste, ils veulent donc inciter les gens de gauche à voter massivement dimanche prochain pour faire face au discours de la haine, aux mensonges réactionnaires, aux insultes, au racisme, au machisme et à la cupidité. Dimanche, ils espèrent que les valeurs de la dignité humaine et du progrès social vont s'imposer.
Marie-Hélène Ballestero. En Algérie, 10e vendredi de mobilisation aujourd'hui pour un changement de système. Cette semaine, des hommes d'affaires ont été arrêtés pour corruption. C'est le fait marquant depuis la manifestation de la semaine dernière. C'est insuffisant. Ces arrestations sont insuffisantes pour les manifestants. C'est ce qu'a recueilli comme témoignage à Alger Leïla Berato.
Dans le cortège, des slogans contre le chef d'état-major, Ahmed Gaït Salah Yassine, 26 ans, a fabriqué une pancarte avec un message particulier pour le chef de l'armée.
En une semaine, il dit qu'il est avec le peuple par rapport à la semaine d'après, donc il fait tout le contraire. Donc on essaie de le faire passer un message, de lui demander à ce qu'il parce qu'ils nous disent qui il est réellement.
Si plusieurs centaines de milliers de personnes défilent dans les rues du centre de la capitale, l'affluence est moins importante que celle des semaines précédentes. Zoubir habite le quartier de Messonnier. Il est venu avec ses deux très jeunes filles. Il constate qu'il y a moins de monde, mais il veut croire que les gens restent mobilisés.
Ils ne sont jamais fatigués, donc ils sont toujours au pouvoir. Ils sont jamais n'amour ramadan.
Dans la foule, d'anciens ministres sont nommément visés, tout comme Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président. Sur la place Maurice Audin, une immense banderole est toujours en place. On a dit « tout le monde, c'est tout le monde ».
Reportage à Alger de Leïla Berato. Demain, nous serons le 27 avril. L'Afrique du Sud célébrera 25 ans de démocratie. Ce jour-là, en 1994, étaient organisées les premières élections libres du pays après la chute du régime de l'apartheid. Ces élections déboucheront sur l'arrivée au pouvoir de l'ANC et de Nelson Mandela qui deviendra président. À Soweto, les plus anciens se souviennent des années qui ont conduit à la fin de l'apartheid. Les citoyens noirs en particulier, forcés de vivre dans ces southwestern townships construits pour les hébergés hors de la ville. Selon leurs conditions sociales, ils ont vu évidemment les choses évoluer depuis 25 ans, mais de manière très différente. Le reportage sur place de Claire Bargelès.
Solide Sessané, 78 ans, nous accueille chez lui. Une maison en dur avec plusieurs pièces dont il n'aurait pas pu rêver dans son enfance.
Voilà, c'est chez moi. Tout ça, c'est notre fierté. À l'époque, on n'avait pas le droit de vivre dans le confort. On était ici pour être utilisés, puis lorsqu'on n'avait plus besoin de nous, on retournait dans nos villages.
Mais en 1976, le township se révolte, des milliers de jeunes descendent dans la rue et la police ouvre le feu. Les jours suivants, le reste du pays s'embrase, faisant des centaines de morts. Zonke Mangagné avait alors 18 ans.
C'était la première fois que l'on voyait ces gros véhicules des soldats. C'était une époque effrayante. Cela a bien changé. Aujourd'hui, c'est devenu un endroit agréable à habiter et nous avons pu bénéficier de ces changements.
Soweto s'est en effet transformé avec ses centres commerciaux et ses cars de touristes. Mais tous n'ont pas vu leurs rêves exaucés. Evelyne Dladamba approche la soixantaine et elle vit toujours dans une cabane en tôle.
Cette pièce, c'est la cuisine, mais aussi la chambre. Si je veux me laver, eh bien c'est ici, devant mes enfants qui voient tout. Rien n'a changé. À l'époque, nous avions de l'espoir lorsque Mandela a été libéré, mais rien ne s'est arrangé.
Plus d'un million d'habitants vivent désormais à Soweto et tous n'ont pas vu les promesses du passé se réaliser.
Quand Internet devient le pharmacien de la planète, c'est l'enquête de cette édition. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Benoît.
Le e-commerce occupe une place prépondérante chez les acheteurs du monde entier. Si Amazon, le leader en la matière, peut se vanter d'avoir réalisé 3,6 milliards de dollars de bénéfices, sur les trois premiers mois de cette année. D'autres marchés parallèles engendrent également du profit. Et c'est un fait, David, c'est une constatation. Le trafic de médicaments contrefaits prend de plus en plus d'ampleur.
Oui, rien que ces cinq dernières années, le nombre d'incidents autour de ces produits a augmenté de 60% au niveau mondial. Tout d'abord, précisons de quoi nous parlons. Un médicament contrefait, c'est un produit dont le principe actif, c'est-à-dire la molécule, a été supprimé, voire remplacé, le plus souvent par des substances dangereuses. Ces médicaments contrefaits, on estime qu'ils représentent 20% du marché pharmaceutique mondial, ce qui démontre leur propagation et les sommes qui sont en jeu dans ce marché, comme l'explique Philippe Lamoureux, le directeur général du LEM, le syndicat du milieu pharmaceutique.
C'est très difficile à estimer parce qu'en fait il s'agit de ce qu'on appelle une économie souterraine, autrement dit on échappe à tous les outils qui vont permettre de mesurer le marché. Des chiffres circulent, on parle régulièrement de 200 milliards d'euros. Disons que sur Internet, qui est un des grands vecteurs d'introduction de la contrefaçon, un médicament sur deux est une contrefaçon.
Et les risques de trouver des produits contrefaits existent principalement dans les pays émergents ou dans des régions du monde où l'accès à des médicaments de qualité n'est pas toujours assuré. Pour autant, cela ne veut pas dire que les pays occidentaux sont exempts du marché parallèle qui sévit sur Internet, sachant que les demandes des médicaments, elles, sont universelles.
Ce que vous allez trouver essentiellement, ce sont principalement des médicaments d'amélioration de la performance. Qu'il s'agisse de la performance intellectuelle, de la performance physique, de la performance sexuelle, on considère généralement qu'un produit comme le Viagra est un des produits, si ce n'est le produit le plus contrefait à l'échelle mondiale.
Reste que le problème est malgré tout préoccupant. L'année dernière, plus de 3600 sites internet et 500 tonnes de médicaments contrefaits ont été saisis dans le monde. Si le phénomène reste inquiétant, l'Hexagone semble moins touché justement grâce à son système de santé.
Nous bénéficions en France d'un monopole officinal. Autrement dit, nous nous procurons les médicaments par le biais du pharmacien d'officine. Nous savons que les pays qui ont libéralisé la distribution des médicaments sont un peu plus exposés que ceux qui ont gardé un monopole pharmaceutique. Le deuxième élément, c'est notre système de protection sociale. Parce que souvent, ce qui fait que le patient va aller chercher des médicaments contrefaits sur Internet, c'est le fait qu'il a un problème de prise en charge dans un pays. Or, en France, le taux de remboursement est fort et les médicaments sont remboursés.
On estime que 20 officines en ligne ouvrent chaque jour dans le monde et que cette contrebande est 10 à 20 fois plus rémunératrice que le trafic de cigarettes ou d'héroïne.
Merci David Ravier. Un temps instable demain avec des averses et du vent sur le nord du pays, de faibles pluies suivront le parcours de la perturbation du nord de la Garonne jusqu'au nord-est. Il tombera un peu de neige sur les reliefs. La Bretagne ne sera pas épargnée par les précipitations. Température minimale comprise entre 5 et 10 degrés. Les maximales afficheront de 9 à 16 degrés jusqu'à 22 dans le sud-est.